curieux de savoir à quoi vous pensez actuellement. Peut-être il y en a qui se disent, ça y est, il a pris un peu de poids. Peut-être il y en a un petit peu plus tôt dans la louange qui, dans leur tête, pensaient, j'aimerais prier, et puis, mais non, non, il y en a qui prient beaucoup mieux que moi, je ne vais pas le faire. Je ne sais pas vous, mais il se passe beaucoup de choses dans nos pensées. Des fois, on peut avoir des attitudes où on est rayonnant, souriant, et puis il se passe autre chose dans nos têtes. En tant que chrétiens qui aimons le Seigneur, si tout ce que nous faisons est de nous conformer au monde qui nous entoure, nous aurons de la peine à discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Et cela va nous rendre inefficaces dans notre marche pour le servir, même si l'intention est là. Le monde, vous le savez, il rejette Dieu. C'est ancré en lui. Et si on se laisse influencer par son mode de pensée, nous allons perdre foi en ce que Dieu est capable de faire. Nous allons perdre toute crédibilité face au message de l'Évangile. Pire, nous allons perdre l'envie de partager même cet Évangile, cette bonne nouvelle. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, le cinéma, les médias, les séries, les jeux vidéo, la musique, et j'en passe, exercent une influence indéniable, considérable, sur notre façon de penser, de raisonner. Une personne, en quelques instants, peut modeler l'opinion de foule entière, de millions de gens sur un produit, sur un événement, sur une personne, juste en partageant un point de vue. C'est pour ça qu'on les appelle des influenceurs. Exactement. Car ils sont capables d'influencer, d'orienter la pensée de foule entière dans une direction ou dans une autre. Et ces nouveaux médias permettent de faire cela à très grande échelle. En parallèle, la santé mentale des populations ne cesse de s'aggraver. J'ai regardé un petit peu des études en France. 32,6% des Français évaluent leur vie de manière négative. Et 20% des sondés indiquent ressentir une dépression. Selon l'Organisation mondiale de la santé, elle constitue la première cause de morbidité et d'incapacité au monde, où plus de 280 millions de personnes vivent avec cette problématique de santé. Plus de 700 000 personnes se suicident chaque année. Et c'est la quatrième cause de mortalité, de décès chez les 15-19 ans. Et tout cela a à voir avec notre intelligence, avec ce qui se passe là-dedans, notre façon de penser. Et la parole de Dieu, elle nous promet que notre intelligence, elle peut être transformée, que notre façon de penser peut changer. Et c'est une promesse de Dieu. On va le lire dans la lettre de Paul aux Romains, au chapitre 12, je vais lire les deux premiers versets. Alors, j'ai pas de PowerPoint, mais si vous avez vos Bibles, vous pouvez les ouvrir. Romains 12, et je vais lire les versets 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc la clé pour ne pas gâcher nos vies est de ne pas nous conformer au monde, mais d'être transformés. Et le mot « transformé » vient du grec « métamorpho-o », qui veut dire littéralement « changer en une autre forme ». Transformé, transfiguré. Et quand on regarde un petit peu plus, on voit qu'il y a quatre fois l'occurrence de ce mot dans la Bible, dans le Nouveau Testament, et notamment dans les Évangiles, quand il est question de Jésus, quand il fut transfiguré. Il fut transfiguré, métamorpho-o, devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs, comme la lumière. Cette transformation, elle est visible. Et elle ne laisse pas indifférence les personnes qui sont autour. Jésus fut transformé, son visage resplendissait comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. J'avais l'image d'une chenille quand je réfléchissais à ce temps ce matin de partage qui passe à l'état de chrysalide et qui ensuite devient un magnifique papillon. Et la destinée d'une chenille, c'est de devenir un magnifique papillon. C'est une grande métamorphose. Il y a une transformation qui s'opère. Et votre destinée, notre destinée, nous dit la Bible, c'est d'être transformé à l'image de Christ. Il y a du boulot. Vous vous souvenez de ce chant qui dit « Nous tous qui reflétons ». Vous vous rappelez de ce chant ? Le Seigneur de gloire, un visage découvert comme dans un miroir, nous sommes transformés à son image transfigurée. C'est tout à fait ça, un vaste programme. Et c'est dans la lettre de Paul aux Corinthiens, le 2 Corinthiens 3, verset 18. Ce qu'on chante, c'est littéralement la parole de Dieu. Votre destinée n'est pas de rester indéfiniment à l'état de chrysalide, si je puis dire, car il y a beaucoup plus. Mais peut-être vous me direz, pourquoi mon intelligence devrait être transformée ? Qu'est-ce qui cloche avec elle ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Certains pensent que le seul problème de l'esprit humain est son manque de connaissances. L'éducation serait ainsi la solution. Si on expliquait un peu plus aux gens, peut-être ça irait mieux. Cependant, on constate que ça n'a pas empêché des personnes pourtant très instruites de commettre les pires méfaits. Des détournements d'argent, des prises de pouvoir illégales, des meurtres, des réalisations cinématographiques de plus en plus obscènes et violentes. D'autres espèrent après l'intelligence artificielle, l'IA, pour un avenir meilleur. Mais ce n'est pas la solution. Le souci avec notre esprit, ce n'est pas simplement que nous sommes limités ou que nous ne comprenons pas les choses ou que nous ne disposons pas de toutes les informations. Le vrai problème est que nos esprits sont déchus. Dans la lettre aux Romains, un peu plus haut, chapitre 1, les versets 28 à 32, Paul nous dit « Comme ils n'ont pas jugé bon d'avoir la connaissance de Dieu, Dieu les a livrés à une mentalité réprouvée pour commettre des choses indignes. Il se remplit de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de perfidie, plein d'envie, de meurtre, de discorde, de fraude, de vice, rapporteurs, médisants, impies, emportés, orgueilleux, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, sans intelligence, sans loyauté, sans affection, sans indulgence, sans pitié. Et bien qu'ils connaissent le décret de Dieu selon lequel ceux qui pratiquent de telles choses sont dignes de mort, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les pratiquent. L'homme a une mentalité hostile à la suprématie absolue de Dieu. Nos esprits sont déterminés à ne pas considérer Dieu comme infiniment plus digne de louange que nous, ou que ce que nous réalisons. Plus haut, il nous est dit, je vais prendre dans Romains 1, où je l'ai écrit là, que nous avons remplacé la gloire de Dieu incorruptible par des images représentant l'homme corruptible. Alors je vais la jouer provocation ce matin, mais c'est volontaire. L'image que vous voyez le matin dans le miroir en vous levant, est-elle l'image que vous adorez le plus ? Amen. Le verset 1 dit que nous devons offrir nos corps, c'est-à-dire tout notre être entier, toute notre vie active, comme un sacrifice vivant qui sera de notre part un culte raisonnable. Donc le but de notre vie, c'est l'adoration. Autrement dit, nous devons utiliser toute notre vie entière pour montrer la valeur de Dieu, pour montrer tout ce qu'il est pour nous en Christ. Mais pour que cela se produise, notre esprit doit être renouvelé, car nos esprits ne sont pas, par nature, des esprits adorateurs de Dieu. Ils ne sont pas, nature, des esprits adorateurs d'eux-mêmes. Pierre écrit dans sa première lettre, chapitre 1, versets 13 à 14, c'est pourquoi, il s'adresse à des chrétiens, c'est pourquoi affermissez votre pensée, soyez sobre, ayez une parfaite espérance en la grâce qui vous sera apportée lors de la révélation de Jésus-Christ. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois dans votre ignorance. Les désirs que nous avions autrefois. Dans d'autres passages, il est question de convoitises trompeuses. Ce sont ces désirs qui détruisent la vie et l'adoration et ils trompent nos propres esprits. Éphésiens 4, versets 17 à 18, nous dit également que c'est lié à l'endurcissement de notre cœur. Voici donc ce que je dis et ce que j'atteste dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur intelligence. Ils ont la pensée obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et de l'endurcissement de leur cœur. En fait, tout commence ici, avec la dureté de nos cœurs, qui nous empêche de reconnaître la vérité, nous empêche de nous soumettre à Christ. Alors il est vrai, vous me direz, qu'au moment de la conversion, il se passe quelque chose d'extraordinaire. La Bible déclare que nous sommes en un instant changés. Quand vous avez accepté Jésus, vous n'êtes plus la même personne. C'est ce que la Bible appelle une nouvelle naissance. Vous êtes sauvé. Vous êtes en règle avec Dieu. Vous avez la paix avec Dieu. Vos yeux se sont ouverts. Vous comprenez l'œuvre de la croix. Vous mettez votre confiance dans le sang de Jésus. Vos péchés sont pardonnés. Vous venez de faire la paix avec Dieu. Vous devenez son enfant. Votre destinée éternelle change en un instant. C'est un nouveau départ. Et la vie a changé. Et tout ce qui se passe quand vous devenez chrétien, là, ici, est instantané. C'est ce que Dieu fait pour nous. On l'a chanté ce matin. C'est lui qui est venu. C'est lui qui a ouvert nos yeux sur son amour. C'est lui qui a donné sa vie. Et puis, il y a d'autres choses qui ne sont pas données au moment de la conversion. Des choses qui nous sont réservées pour plus tard, quand on le rejoindra. Un nouveau corps, par exemple. La perfection. Et puis enfin, il y a des choses qui ne sont ni instantanées, qui sont ni à venir, mais qui sont graduelles, qui ont besoin de grandir et qu'on doit expérimenter dans toute la vie que nous avons ici sur Terre. La maturité en fait partie, la sanctification en fait partie, et il y a un processus qui démarre aussi pour qu'on devienne comme Jésus. Et il en est de même pour le renouvellement de l'intelligence. À votre conversion, vous n'avez pas reçu une nouvelle pensée comme on téléchargeait, vous savez, une téléchargerie, une mise à jour, un nouveau logiciel. Vous n'êtes pas réveillé en pensant complètement différemment de ce que vous aviez pensé autrefois. Mais une transformation de notre intelligence commence. Je redis ce verset de Corinthiens. Nous tous, qui le visage dévoilé, reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. C'est le Saint-Esprit qui renouvelle notre pensée. Dans le verset 2 de Romains 12, quand il nous dit « soyez transformés par le renouvellement », le mot « renouvellement » vient du grec « anaikeinosis », je ne sais pas si je le prononce comme il faut, qui signifie « renouvellement », un renouveau, une renovation, un changement complet pour le meilleur. Et là encore, si on regarde un petit peu plus ce mot, il y a deux occurrences dans le Nouveau Testament, et la deuxième occurrence, elle est dans Tite, chapitre 3, verset 5, où il nous est dit « Il nous a sauvés non parce que nous aurions fait des œuvres de justice, mais en vertu de sa propre miséricorde par le bain de la régénération et le renouveau, anakinosis, du Saint-Esprit. » Donc le renouvellement de notre intelligence est d'abord et avant tout l'œuvre du Saint-Esprit. Nos efforts vont suivre son initiative. Et pour nous transformer à l'image de son Fils, il nous permet de contempler la gloire de Dieu. Il ouvre nos yeux. C'est comme cela que notre pensée est renouvelée. Notre pensée est renouvelée parce que le Saint-Esprit lui fait voir la gloire de Christ telle qu'il est réellement. Et la transformation commence. Elle est une expérience progressive. Il s'agit d'éliminer les mauvaises pensées et les remplacer par d'autres types de pensées. Cela implique de comprendre quelles sont les pensées de Dieu. Et c'est donc de prendre la responsabilité de ce dont nous permettons à notre intelligence de se nourrir. En quelque sorte, c'est reprendre le terrain qui a été perdu dans la façon dont nous pensons. Qu'est-ce que nous mettons devant nos yeux? Qu'est-ce que nous lisons? Qu'est-ce que nous regardons? Qu'est-ce que nous écoutons? De quoi est-ce qu'on se nourrit? Et là, on a une responsabilité. L'Esprit agit, mais on a une responsabilité. Alors l'Esprit, il agit de deux manières. Il travaille dans deux sens, dans deux directions. Il travaille de l'extérieur vers l'intérieur, comme je l'ai dit, en exposant notre esprit à la vérité au sujet de Christ. Il nous amène à entendre l'Évangile, à lire la Bible, à étudier les écrits de grands hommes de Dieu et à méditer. Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 16 et au verset 13, Jésus nous dit « Quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Et c'est exactement ce que notre ennemi ne veut pas que nous fassions. 2 Corinthiens 4, verset 4 nous dit « Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées, afin qu'ils ne voient pas resplendir le glorieux évangile du Christ qui est l'image de Dieu. » Parce que voir cela, voir Christ tel qu'il est réellement, ça renouvellera l'esprit, ça transformera la vie et produira une adoration sans fin. Donc vraiment, je nous encourage à lire la Bible, à lire des livres qui parlent de Dieu. Il y a une application top, il y en a plusieurs qui l'ont déjà, la Bible là sur le smartphone. Tous les matins, vous avez un verset qui est partagé avec un petit partage, des sujets de prière. Si vous savez pas comment, si vous n'avez pas de lecteur biblique, vous pouvez télécharger cette application, je trouve qu'elle est très bien faite, mais vraiment un encouragement à nous nourrir, pas seulement de séries télé, pas seulement de podcasts en tout genre, pas seulement de films, mais surtout de la parole de Dieu. Et quand je dis ça, je le prêche à moi-même, bien sûr. Et le Saint-Esprit, il travaille aussi de l'intérieur vers l'extérieur. En faisant quoi ? En brisant notre cœur endurci qui nous aveugle et trompe notre pensée. Ézéchiel 36, vous connaissez ce verset. « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes prescriptions et que vous observiez et pratiquiez mes ordonnances. » C'est l'œuvre de l'Éternel. L'Esprit agit de l'intérieur vers l'extérieur en nous donnant un cœur humble, capable de reconnaître et d'accueillir la vérité. Et on a besoin des deux. On a besoin des deux. Si le Saint-Esprit présentait à nos esprits la vérité qui glorifie Christ, mais sans toucher notre cœur, qui est dur, pour le rendre humble, alors nous mépriserions la vérité et nous la rejetterions. Et s'il se contentait de toucher nos cœurs sans mettre la vérité qui glorifie Christ devant nos pensées, il n'y aurait pas de Christ à aimer et aucune adoration aurait lieu. Le Saint-Esprit agit de deux manières. Mais comme je l'ai dit plus haut, nos efforts suivent son initiative. On a notre part à faire. J'aime le Seigneur de tout mon cœur. J'ai vécu des choses extraordinaires dans ma vie. Je ne suis pas très vieux. Hein. Et pourtant, je dois reconnaître que mes pensées encore sont complètement erronées. Souvent. Par la peur, par le stress, parfois par le respect des autorités. J'ai des pensées qui ne sont pas justes, qui viennent de l'anxiété. Parfois des pensées malsaines. Ma transformation est toujours en cours. Il y a du travail. Et comme je l'ai dit tout à haut, un peu plus haut, ça a commencé, ça a débuté. Et il y a un processus qui s'est mis en place. Pour être transformé par le renouvellement de l'intelligence, il nous faut commencer par admettre que notre esprit a besoin de changer. Ça commence ici. Paul nous dit « Soyez transformés. Soyez transformés. Soyez. » C'est une exhortation de Paul. Il y a un impératif ici. Dites-vous bien que si Paul exhorte ainsi la communauté chrétienne de Rome, c'est qu'il est possible d'être croyant, mais de continuer de laisser sa pensée se conformer à celle du monde. Et Paul, il dit, soyez transformés. Un changement doit s'opérer. Sinon, comment est-ce qu'on discernera la volonté de Dieu ? Quand notre pensée n'est pas renouvelée, nous avançons avec notre propre conception des choses, notre propre interprétation de ce qui nous entoure. Et elle est influencée par la pensée du monde. Alors qu'une pensée transformée par l'œuvre du Saint-Esprit saura quelle est la volonté de Dieu et la direction à suivre. Et ça concerne tous les domaines de nos vies. Je pense à Jésus. Il répondit aux Juifs, c'était après une guérison qu'il avait faite à la piscine de Bethsaïda, un homme qui était malade depuis 38 ans. Et puis les Juifs viennent challenger Jésus parce que c'était le jour du sabbat. Et puis Jésus leur répond, « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, mais seulement ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait également. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. » Je veux vivre ça. Il y a un enjeu ici. On peut être des chrétiens cocons, chrysalides, toute notre vie, qui porteront peu de fruits. Et on peut être des chrétiens en train de sortir de leur chrysalide pour devenir semblables à Christ. Paul donne dans les chapitres qui suivent, si vous lisez les chapitres 12, 13, 14, 15, 16, qui suivent, plusieurs exemples de ce qu'il entend par une vie consacrée qui s'appuie sur l'œuvre de Dieu et qui refuse la conformité à la façon de penser et de vivre du monde. Il est question d'humilité. Il est question d'aimer ses ennemis. Il est question du respect des autorités. Il est question de la considération pour le faible dans la foi. Moi, je suis frappé des fois quand je... Des fois, j'ai le sentiment que les chrétiens, ils sont pires que les non-chrétiens dans certaines situations. Moi, le premier. On traverse des épreuves, on traverse des difficultés, on brise des amitiés, on est incapable de pardonner. Et moi, ça me dépasse. Parce que ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Il ne s'agit pas de se retirer du monde pour se consacrer à Dieu, mais que notre relation avec la communauté des croyants, avec le monde, soit basée sur la compréhension de l'œuvre de Dieu. Nous appartenons au monde à venir, inauguré par la venue de Jésus. Nous ne devons pas nous conformer nos vies aux principes qui régissent le monde présent. Et c'est par le renouvellement de l'intelligence que débute toute transformation profonde de ce que nous faisons par la suite en acte. Proverbe 23, verset 7 nous dit « Car il est comme les pensées de son âme ». Ils font comprendre que les pensées, ce qui se passe dans nos têtes, parfois, souvent, deviennent des actions. Nos actions mènent à un comportement, et le comportement mène à un caractère. Et le caractère mène à un style de vie. C'est pas sans conséquence. C'est notre responsabilité de découvrir la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit a ouvert nos yeux. Et s'il ne l'a pas encore fait, si vous n'êtes pas encore à Christ ce matin, moi je crois que le Seigneur il peut ouvrir vos yeux. Il veut toucher vos cœurs pour que vous puissiez accueillir cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Vous ne pourrez pas y arriver par vos propres forces. Vous avez besoin de l'œuvre de Dieu dans vos vies. Et vous pouvez lui demander en priant, « Seigneur, révèle-moi ton amour, montre-moi qui tu es. » Et le Saint-Esprit va agir. Il va ouvrir vos yeux. Et ça va changer vos vies. Vous allez donner votre vie à Jésus. Il va venir et vous allez être transformé, comme on l'a dit tout à l'heure. Il y a des choses qui vont être immédiates, qui vont se passer dans votre vie, mais il y a quelque chose qui va démarrer et qui va être progressif tout au long de votre vie. Apprendre à marcher par la foi, apprendre à connaître la volonté de Dieu. Le monde a besoin de voir des chrétiens authentiques qui vivent le message de l'Évangile. Comment ? En nous joignant au Saint-Esprit dans son œuvre de transformation, en recherchant la vérité qui glorifie Christ et en demandant un cœur humble capable de l'accueillir. Cet été, j'ai lu ce bouquin. Beaucoup l'ont lu peut-être. Si vous ne l'avez pas lu, je vous le conseille. C'est un livre de Dave Holden qui parle d'une pensée renouvelée. C'est un livre qu'il a écrit il y a un certain temps, qui traite de ce sujet. Il va un peu plus loin. Il aborde pas mal de cas pratiques, notamment il est question de la tentation aussi, ces pensées qui viennent. Comment on doit gérer ça? Est-ce que c'est nous qui les générons? Est-ce que c'est l'ennemi qui les amène dans nos têtes? Comment est-ce qu'on doit réagir face à ça? Comment est-ce qu'on peut être transformé? Comment est-ce qu'on peut remplacer cette pensée du monde par la pensée de Dieu? Et il y a des explications pratiques. Vraiment, je vous encourage à le lire si vous voulez approfondir ce sujet. Mais je crois que en ce début d'année, j'avais à cœur de nous encourager à ne pas lâcher la bride et à ne pas nous laisser influencer par ce qui nous entoure. Parce que c'est comme ça que l'ennemi nous affaiblit, nous rend inefficaces, nous rend inutiles en tant que chrétiens. Et on a besoin de persévérer, on a besoin de s'encourager les uns les autres. On a des groupes de croissance qui vont démarrer, ça je trouve que c'est super. On va avoir cette occasion de pouvoir lire la parole ensemble, à plusieurs, à deux, à trois, et de pouvoir partager et te poser des questions. Qu'est-ce qui t'a encouragé dans ce que tu as lu? Comment est-ce que le Seigneur t'a parlé? Je trouve ça génial, parce que parfois c'est difficile de le faire seul. Et de le faire à plusieurs, on va pouvoir s'encourager. Et au travers de ce qu'on va lire, au travers de ce qu'on va partager les uns avec les autres, à travers de ce que le Saint-Esprit va faire, au travers de nos lectures, on va nourrir notre pensée de la vérité. Et on va remplacer ces pensées du monde qui sont mensonges, qui sont traîtrises, qui nous trompe, qui trompe notre esprit par la pensée de Dieu. Et alors, nous allons commencer à discerner ce que Dieu veut. Et alors, on va avoir une pensée de plus en plus aiguisée sur ce que Dieu veut. Est-ce que vous avez envie de ça. Je sais que on le vit, je sais que cette œuvre de transformation, elle est en cours. Mais vraiment, je veux nous encourager. Il y a ce mot qui a retenti dans mon cœur quand j'ai lu ce passage, « Soyez transformés » de Paul. « Soyez transformés ». Ne restez pas assis sur vos sièges. « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence pour être capable de discerner quelle est la volonté de Dieu, qui est bonne, agréable et parfaite. » Amen. 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 Je vais prier. Je vous invite à vous lever si vous le souhaitez. Merci Seigneur pour ce que tu fais dans nos vies. Vraiment, je te prie de toucher nos cœurs par ton Saint-Esprit, de le remplir d'une humilité capable d'accueillir la vérité dans tous les domaines. Remplace nos cœurs de pierre par un cœur de chair. Touche nos cœurs pour être capable d'accueillir ta vérité, Seigneur. Même celle qui peut nous déranger parfois. Même celle qui pourra peut-être nous faire faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. On veut se soumettre à toi, Seigneur. On veut que tu nous parles. On veut que tu nous révèles, que tu te révèles à nous toujours plus. Quand nous allons ouvrir ta parole, Seigneur, quand nous allons entendre des enseignements, quand nous allons suivre des cours de l'Académie, ou de l'ITRC, quand nous allons partager à deux, à trois autour de ta parole, quand nous allons nous retrouver en groupe de vie, vraiment, ouvre nos yeux sur ta parole, ouvre nos yeux sur ce qu'elle nous dit, ce qu'elle veut nous dire, qu'elle puisse faire sens, qu'elle puisse marquer nos, comme une empreinte indélébile dans nos cœurs, dans nos pensées. Viens changer nos pensées, viens remplacer nos raisonnements qui sont faussés, qui sont mauvais. Viens mettre ta pensée dans nos pensées. Aide-nous à connaître et à voir ta volonté, Seigneur, parce que nous savons qu'elle est bonne, agréable et parfaite. On a besoin de toi, Seigneur. Vraiment, je te prie pour chaque personne ici présente. Je te prie de nous remplir, Seigneur, de nous parler et de nous faire grandir. C'est ton plan. C'est ton plan pour ton Église. C'est ton plan pour ceux que tu as sauvés, afin qu'ils puissent marcher dans tes pas, afin qu'ils puissent faire les œuvres que tu as faites, afin qu'ils puissent accomplir ce que toi tu veux, afin qu'ils puissent aller là où tu veux les envoyer, afin qu'ils puissent faire les œuvres que tu fais. Nous voulons t'entendre si distinctement, te comprendre si distinctement que nous allons faire ce que nous te voyons faire, comme toi tu faisais avec ton Père. C'est ma prière, Seigneur. Amen. Amen.